Vous écoutez, on lit pour vous.
Le CIUS veut mieux soigner les jeunes avec un trouble comportemental. Un texte d'Anthony Ouellet, paru le 21 juillet 2025 dans la Tribune. Le CIUS de l'Estrie, CHUS, aimerait développer une unité de réadaptation comportementale intensive, URCI, sur son territoire, notamment pour offrir un milieu de vie adapté aux jeunes vivant avec un lourd trouble du spectre de l'autisme. L'établissement est en attente de financement pour ce projet. Une URCI vient en aide aux jeunes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, DITSA, ou une déficience physique, en plus de présenter une problématique de comportement. Il s'agit d'une unité où des intervenants spécialement formés aident de façon individuelle ces jeunes dans le but de régler le plus possible les troubles comportementaux. L'approche est différente de ce qui peut être retrouvé dans un centre de réadaptation pour jeunes, comme Val-du-Lac. Une URCI est spécialement conçue pour les jeunes avec ces troubles. Déjà, en 2023, l'ouverture d'une URCI sur le territoire estrien était priorisée, selon un dossier d'affaires de l'époque consulté par la Tribune. Ce besoin vise notamment à répondre à une surutilisation des places d'hébergement jeunesse en Estrie. Le taux d'occupation atteignait 179% dans l'ensemble des différentes ressources en 2023 et 136% l'an dernier pour les seules unités de Val-du-Lac, où il a souvent été question de la présence de jeunes DITSA qui ne devraient pas y être. La directrice adjointe du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en troubles du spectre de l'autisme du CIUS de l'Estrie, CHUS, Julie Pearson, a confirmé que l'établissement avait déposé un projet auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, pour l'ouverture d'une URCI. On est en attente de confirmation de financement, donc on pourra présenter plus de détails si cette confirmation arrive, indique-t-elle succinctement. Interrogés par la Tribune, le MSSS et le siège social de Santé Québec n'ont pas répondu à nos questions à ce sujet. Unité attendue. Le représentant national de l'Estrie pour le syndicat de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Danny Roux, avoue que ces unités sont attendues en Estrie. Elles viendraient combler un angle mort dans l'offre de services pour la clientèle jeunesse, dit-il. Ça va aider si ça se construit un jour, indique prudemment M. Roux. D'après lui, à terme, il pourrait y avoir une vingtaine de places disponibles dans différentes URCI en région. La première phase du projet pourrait, selon lui, en compter six. En même temps, on nous l'a déjà promis par le passé et on l'attend encore, remarque-t-il. D'autres régions du Québec possèdent déjà des URCI, comme la Montérégie, la Capitale-Nationale et le Bas-Saint-Laurent. Les projets prennent des moutures similaires d'une région à l'autre, malgré certaines différences. Inaugurée en février dernier, celle du Bas-Saint-Laurent accueille jusqu'à 5 jeunes de 6 à 18 ans, de façon intensive et sur une courte durée, soit de 3 à 6 mois. L'unité compte 18 travailleurs et fonctionne grâce à un budget annuel de 2 millions, rapportait l'an dernier Radio-Canada Bas-Saint-Laurent. Celle de la Montérégie se trouve à Longueuil et peut accueillir un total de 9 usagers de 6 à 17 ans. À Québec, elle a une capacité d'accueil de 10 adultes et 5 enfants et a été opérationnalisée au coût de 2 millions de dollars, rapportait le Journal de Québec en 2021. C'était « Le CIUS veut mieux soigner les jeunes avec un trouble comportemental », un texte d'Anthony Ouellet, paru le 21 juillet 2025 dans la Tribune.
Le son au bout des doigts, les recherches innovantes d'Andréanne Sharp, un texte de Mireille Beaubien, paru le 3 juillet 2025 dans Sourdine Express. Andréanne Sharp, professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval, audiologiste et chercheuse spécialisée en neurosciences auditives, perception musicale et réadaptation, est lauréate du concours Chercheur boursier junior 1. Ce programme vise à faciliter le recrutement de chercheurs et de chercheuses qualifiés qui désirent entreprendre ou poursuivre une carrière autonome en recherche dans le domaine de la santé humaine. Je lui ai posé quelques questions afin d'en savoir plus sur ses recherches, ainsi que sur son parcours et ses motivations à faire avancer la science en audiologie. Sur la reconnaissance reçue. Qu'avez-vous ressenti en apprenant que vous étiez lauréate du concours Chercheur boursier junior 1? Qu'est-ce que cela représente pour vous personnellement et professionnellement? C'est une grande fierté. Cette bourse de carrière représente une importante reconnaissance par les pairs, considérant que l'évaluation pour ce concours repose principalement sur l'excellence du dossier de recherche ainsi que la qualité et le potentiel du programme de recherche proposé. Ce financement soutient le chercheur ou la chercheuse de deux façons. D'abord, les fonds de recherche du Québec Santé offre une bourse permettant de couvrir une grande partie du salaire du chercheur ou de la chercheuse, ce qui permet à l'université de recruter des ressources supplémentaires et de réduire la charge administrative et d'enseignement du professeur. La personne sélectionnée peut ainsi consacrer au minimum 75% de son temps à la recherche pendant 4 ans. Ensuite, dans le cadre de la bourse Junior 1, destinée aux chercheurs et chercheuses en début de carrière, un soutien financier est également accordé pour les activités du laboratoire. Cela représente un appui considérable, car il me permettra non seulement de consacrer davantage de temps au développement de mon laboratoire, mais aussi de supporter une personne étudiante qui souhaite poursuivre au cycle supérieur en recherche. En tant qu'audiologiste et chercheuse, dont le programme de recherche vise à trouver des solutions pour répondre à des enjeux de santé auditive, je vois cette reconnaissance comme un pas dans la bonne direction. Elle contribue à faire valoir l'importance de la santé auditive comme enjeu de santé publique. Il est essentiel que cette problématique soit reconnue comme prioritaire, notamment dans le contexte du vieillissement de la population, en raison des nombreux effets collatéraux que les troubles auditifs peuvent avoir sur la santé. Sur le programme de recherche, pouvez-vous nous expliquer, en mots simples, votre programme de recherche? Comment vous est venue l'idée d'utiliser un sens alternatif, les mains, pour transmettre les sons? Au sein de mon laboratoire, mon équipe et moi étudions comment le cerveau fait le traitement et l'analyse des signaux sonores complexes, comme la musique ou la parole, dans un environnement bruyant où plusieurs sources sonores sont en compétition. Nous cherchons également à comprendre comment la perte auditive rend plus difficile la perception dans ces contextes exigeants. Notre objectif est de mieux comprendre ces mécanismes afin de développer de nouvelles solutions pour améliorer l'écoute de la musique et la compréhension de la parole en milieu bruyant chez les personnes malentendantes. Parmi les pistes explorées, nous travaillons sur une nouvelle technologie, les gants vibrotactiles, qui permettent de transmettre les sons via les mains et ainsi permettent l'ajout d'indices tactiles lors de la perception auditive. Nous explorons aussi l'utilisation de la musique comme outil de réadaptation des habiletés auditives centrales. Enfin, nous nous intéressons aussi à l'émergence de nouvelles technologies en santé auditive, comme l'intégration de l'intelligence artificielle dans les appareils auditifs. La musique, l'une des plus anciennes formes d'art, demeure aujourd'hui une source majeure de plaisir dans la vie des humains. Son appréciation repose sur l'analyse fine de séquences sonores complexes, ce qui devient difficile en cas de perte auditive. C'est ce constat qui m'a amené à me demander pourquoi ne pas faire appel à un autre sens, comme le toucher, pour compenser ces difficultés. Avez-vous déjà posé vos mains sur des haut-parleurs? On peut alors ressentir les sons, le rythme, les fréquences, les émotions. C'est une pratique courante dans la communauté sourde, où l'on place parfois les haut-parleurs au sol et à fort volume pour ressentir la musique dans tout le corps. Pourtant, très peu de technologies exploitent aujourd'hui ces indices tactiles. Leur développement est freiné par le manque de recherche sur la manière dont ces signaux peuvent améliorer la perception auditive et sur la capacité du cerveau à les intégrer. C'est pourquoi nous poursuivons nos travaux sur la perception vibro-tactile avec l'ambition de créer des outils qui répondent aux besoins des personnes malentendantes tout en offrant des expériences immersives accessibles à tous. Ces technologies pourraient aussi aider les musiciens à mieux se synchroniser lorsqu'ils jouent ensemble dans des environnements bruyants. Sur l'impact humain. Quels effets secondaires de la surdité non compensée vous ont particulièrement marqué ou motivé dans vos recherches? Avez-vous une anecdote touchante ou marquante d'un moment dans votre recherche ou avec un participant? J'ai grandi dans une famille de musiciens. J'ai commencé la musique très jeune et elle occupe encore aujourd'hui une place importante dans ma vie. C'est d'ailleurs la musique qui m'a naturellement guidée vers l'audiologie, un domaine où je pus conjuguer mes deux passions. Durant mes études cliniques, une audiologiste m'a raconté l'histoire d'un musicien professionnel ayant perdu l'audition de façon soudaine. Sa vie avait été bouleversée et malgré les technologies disponibles, rien ne lui donnait le goût de rejouer de son instrument. Cette histoire m'a profondément marquée. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais travailler à trouver des solutions pour aider non seulement les musiciens, mais aussi toutes les personnes qui aiment la musique, et elles sont nombreuses. Dans ma pratique clinique, j'ai souvent entendu des patients me dire que, même avec leurs appareils auditifs, la musique ne sonnait plus comme avant. Une autre plainte fréquente des patients concerne la difficulté à comprendre la parole dans le bruit, un enjeu majeur, car la plupart des interactions sociales se déroulent dans des environnements sonores imparfaits. Le point commun entre la musique et la parole dans le bruit, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la scène auditive. La capacité du cerveau à organiser les sons, à fusionner certains éléments, comme entendre une chorale chanter à l'unisson comme une seule voix, ou à les séparer, comme distinguer les différents instruments dans un trio de jazz. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'audition centrale et à chercher des solutions pour compenser les difficultés liées au changement du cerveau auditif en lien avec la surdité. Sur son parcours et sa motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la recherche en réadaptation auditive? Quels défis avez-vous rencontrés comme jeune chercheuse? Quand j'ai fait le choix lors de mon parcours, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, de mettre tout en place afin de tenter d'atteindre un jour une carrière académique et ainsi pouvoir consacrer une grande partie de mon temps à la recherche, le chercheur boursier était à ce moment un rêve bien lointain, mais c'était là depuis le tout début. Mon but en prenant cette décision de parcours était de développer les connaissances dans le domaine de l'audition, car je trouvais qu'il y avait encore trop de questions non répondues, des questions essentielles pour mieux aider les personnes malentendantes, mieux outiller les cliniciens, cliniciennes à faire leur travail, améliorer les pratiques dans le domaine, augmenter les options d'outils technologiques, mieux former les futurs professionnels, etc. En tant que jeune chercheuse, j'ai été confrontée à plusieurs défis. L'un des plus grands a été de démarrer mon laboratoire à partir de zéro, un peu comme on lancerait une entreprise. Il a fallu tout construire, définir une vision de recherche, obtenir du financement, recruter une équipe, mettre en place des protocoles et créer un environnement de travail propice à la formation. Un autre défi majeur est lié à la compétitivité du milieu de la recherche. Il faut constamment se démarquer, publier, obtenir des subventions, tout en maintenant une rigueur scientifique élevée. Et faire sa place est encore plus complexe dans un domaine comme la santé auditive et la réadaptation qui, historiquement, manque souvent de reconnaissance malgré son impact profond sur la qualité de vie, en particulier dans le contexte du vieillissement de la population. Il faut donc redoubler d'efforts pour faire valoir l'importance de ces enjeux, tant auprès des instances de financement qu'au sein de la communauté scientifique. La pandémie a aussi représenté un obstacle important. Elle a ralenti plusieurs projets, complexifié la collecte de données, mais elle m'a aussi permis de développer ma capacité d'adaptation ainsi que ma créativité. Ces défis m'ont permis de mieux comprendre mes forces, de rester fidèle à ma vision et de m'engager pleinement dans une recherche porteuse de sens pour moi. Pour terminer, si vous pouviez imaginer l'impact de votre travail dans 10 ans, que verriez-vous? Mon ambition est de développer une version des gants vibro-tactiles transportables adaptés à un usage quotidien. Ce serait un véritable accomplissement que d'assister à un concert de l'orchestre symphonique et de voir des spectateurs porter ces gants pour vivre une expérience multisensorielle. Cela dit, la recherche est un processus lent qui exige de la patience. 10 ans dans ce domaine, c'est relativement court. Je serais ravie de vous reparler dans 10 ans pour vous présenter les avancées réalisées. C'était Le son au bout des doigts, les recherches innovantes d'Andréanne Sharp, un texte de Mireille Beaubien, paru le 3 juillet 2025 dans Sourdine Express.
Difficile de trouver un logement accessible pour des déplacés de Grande Prairie. Un texte de la rédaction paru le 20 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. Des dizaines de personnes ont dû quitter leurs appartements de Margaret Eggson Manor à Grande Prairie à cause d'un feu le mois dernier. Le bâtiment, comprenant 70 appartements, fournissait des logements abordables et 16 appartements accessibles en fauteuil roulant, mais il est désormais inhabitable. Parmi les résidents qui ont des difficultés à trouver un nouvel appartement, il y a Leslie Donegan et son mari Kevin Garrett. De nombreux résidents déplacés sont actuellement dans des hôtels ou des dortoirs d'établissements scolaires en attendant de nouvelles locations. Certains, comme ce couple, doivent prendre en compte leurs besoins de mobilité et liés à leur santé. Leslie Donegan a une sclérose en plaques et utilise un déambulateur. Son mari s'occupe d'elle à temps complet. Vous pouvez appeler n'importe quelle agence de location à Grande Prairie en ce moment et il n'y a aucun logement disponible. La plupart d'entre elles n'ont même plus de liste d'attente, tellement la situation est mauvaise. On ne cherche même pas un logement accessible, ce dont j'ai besoin. Il n'y a tout simplement plus de logement disponible, dit Leslie Donegan. Le couple a déposé des dossiers pour plus de 15 locations, mais cela n'a pour l'instant pas fonctionné et ils vivent à l'hôtel. Leur assurance prendra ce coût en charge pendant 9 mois. Le feu a mis en évidence le défi de garantir la disponibilité de logements accessibles, notamment en cas d'urgence, a déclaré un porte-parole de la ville de Grande Prairie par courriel. Il y a peu de logements entièrement accessibles et vacants. Manque de logements. À Grande Prairie, le taux d'inoccupation des logements était de 1,5 % en 2023, selon des données provinciales qui ne concernent que les logements dans des immeubles non subventionnés. La ville a voté pour aider à prendre en charge des nuits d'hôtel en attendant que les assurances et les prestations d'urgence provinciales prennent le relais, dit le porte-parole. Plusieurs résidents ont été placés avec succès dans une structure appartenant à la ville, ajoute-t-il. Le ministère de l'Aide à la vie autonome et des services sociaux travaille avec la Grand Spirit Foundation et la Grand Prairie Residential Society pour aider les résidents, selon Amber Edgerton du ministère. Le ministère envoie une aide financière au loyer et d'urgence aux personnes touchées et a contacté des logements abordables et des résidences pour personnes âgées dans la région de Grande Prairie pour aider les gens à trouver un logement convenable, écrit Amber Edgerton. La directrice des ressources humaines de la Grand Spirit Foundation, Tracy Bussière, dit que 82 % des résidents ont été relogés et que 5 % ont refusé les options qui leur ont été proposées. Leslie Donegan et Kevin Guérett disent quant à eux ne pas avoir entendu grand-chose de la part des organisations de soutien. La Fondation leur a offert des places dans différentes communautés, notamment dans une résidence pour personnes âgées à environ 70 km à Spirit River, mais déménager est un dernier recours. Grande Prairie est devenue ma maison. Mes médecins sont ici, mes amis sont ici. Comment gérer ça? Comment trouver un nouveau foyer alors qu'il n'y en a pas? Dit Leslie Donegan. Une autre résidente déplacée, Julie Wright, dit être chanceuse d'avoir été relogée dans un nouvel appartement. Elle est atteinte d'une discopathie dégénérative et d'arthrite et se remet d'une opération. Elle s'occupe aussi de sa fille adulte, handicapée et souffrant de multiples problèmes de santé complexes. Elles vivent avec un revenu fixe et leur nouveau loyer coûte 1 650 $ par mois, soit plus du double des 800 $ payés mensuellement auparavant. En plus d'avoir perdu leurs appartements, de nombreux résidents ont désormais peu de biens personnels. Julie Wright a laissé des médicaments et les cendres du père de sa fille dans le bâtiment. « Il y a eu 2 jours où je me suis apitoyé sur moi-même. J'ai craqué. Ce sont des choses irremplaçables. Mais on survivra. On devra s'en passer. » C'était « Difficile de trouver un logement accessible pour des déplacés de Grande Prairie ». Un texte de la rédaction paru le 20 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.
Plus du tiers des entrepreneurs disent que leurs problèmes de santé mentale nuisent à leur travail. Un texte de Stéphane Roland de la Presse canadienne paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir. Plus du tiers des entrepreneurs canadiens affirment que leurs problèmes de santé mentale nuisent à leur travail au moins une fois par semaine, selon un récent sondage de la Banque de développement du Canada, BDC, mené auprès de 1510 propriétaires de PME au pays. Le fait que 36 % des entrepreneurs canadiens vivent chaque semaine des difficultés de santé mentale qui nuisent à leur capacité de travailler est une bien mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent améliorer la productivité de l'économie canadienne, estime l'économiste en chef de la BDC, Pierre Clairoux. Il faut que l'entrepreneur se sente bien pour être capable d'innover, de faire des changements, d'améliorer l'efficacité de son entreprise, commente-t-il. Ça nous prend des entrepreneurs en bonne santé mentale, si je peux dire, pour qu'on soit capable d'améliorer notre productivité. La proportion d'entrepreneurs en 2025 qui reconnaissent vivre des difficultés par rapport à leur bien-être psychologique est dans la moyenne des coûts de sonde réalisés depuis 2018 par la BDC, dans les dernières années, estime l'économiste. L'actualité a été riche en émotions fortes pour les propriétaires d'entreprises au cours des dernières années, pandémie, flambée de l'inflation, hausse des taux d'intérêt, rhétorique protectionniste du président américain Donald Trump. On est passé à travers d'une crise après l'autre, constate l'économiste. Ça fait 5 ans que chaque année, il y a une situation stressante. C'est une situation difficile pour les entreprises. C'est de plus en plus difficile de gérer une entreprise. En 2025, la situation financière de leurs entreprises et les tensions commerciales sont les principales préoccupations des entrepreneurs. La moitié des entrepreneurs disent vivre du stress par rapport au maintien de leur liquidité. L'incertitude économique et politique touche 47 % des répondants. Un peu moins d'entrepreneurs se disent préoccupés par l'inflation, mais cette source de stress demeure élevée à 43 % en baisse de 5 points de pourcentage. Sur le plan personnel, la conciliation travail-famille préoccupe 46 % des entrepreneurs. Près du tiers des entrepreneurs, soit 35 % ont indiqué avoir consulté un professionnel de la santé mentale. En brisant les tabous entourant la santé mentale, les gens sont plus à l'aise de consulter, souligne M. Cléroux. Il faut en parler. Les Québécois sont les plus susceptibles d'aller chercher de l'aide, selon le sondage. Ils sont 45 % à l'avoir fait. Les entrepreneurs canadiens de moins de 45 ans, soit 57 % sont eux aussi plus ouverts à aller chercher de l'aide. Le sondage en ligne de la BDC a été effectué du 3 au 18 mars 2025 auprès de 1510 propriétaires de PME à travers le Canada. Le Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien précise qu'une marge d'erreur ne peut être attribuée au sondage en ligne car il ne procède pas à un échantillonnage aléatoire de la population. C'était « Plus du tiers des entrepreneurs disent que leurs problèmes de santé mentale nuisent à leur travail », un texte de Stéphane Roland de la Presse canadienne, paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir.